Cet après-midi, dans notre diocèse, à voir un nouveau prêtre qui va être ordonné par notre évêque, l'abbé Damien Jallier, qui, pour ceux qui ne le savent pas, il a grandi toute son enfance, il l'a passé à La Roche-sur-Yon jusqu'à l'âge de 18 ans. Et ensuite, ses parents ont déménagé à Montaigu il a continué à être sur La Roche puisqu'il a été étudiant à l'ICES pendant 2-3 ans. Voilà, donc il a vraiment vécu une partie de son parcours chez nous. Nous devons rendre grâce pour cette vocation. Et puis donc l'évangile tombe bien, parce que comme vous l'avez entendu, le Seigneur nous dit quelque chose de surprenant, il faut bien le dire. Il dit que les ouvriers sont peu nombreux et qu'il nous faut donc prier le Père d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Dieu n'allait pas s'occuper vraiment de son Église et lui fournir toutes les vocations nécessaires pour qu'elle assure sa mission. Il y a une réalité surprenante, mais en fait, et c'est le mystère de l'Église que nous contemplons à travers cette interpellation que Jésus fait à la foule qui était autour de lui à ce moment-là, c'est que, à la fois, bien sûr, le Seigneur se préoccupe de son Église, donc nous n'avons pas à nous inquiéter outre mesure, nous n'avons pas à nous préoccuper de gérer l'Église comme si c'était une entreprise humaine. Et en même temps, il nous renvoie vraiment à une sorte de responsabilité qui est celle d'invoquer, de demander au Seigneur de susciter des vocations. Comme si, parce que c'est sans doute la réalité, comme s'il y avait un combat spirituel par rapport à cette réalité-là que le Seigneur puisse susciter des vocations pour tenir continuer son ministère. Comme vous l'avez entendu, aussitôt qu'il fait cette invitation explicite, ce commandement, prier pour que le Seigneur envoie des ouvriers à sa moisson, aussitôt il appelle les 12 apôtres, dont un sera infidèle. Ce qui montre bien aussi, c'est que le Seigneur appelle ceux qu'il appelle, restent maîtres de leur vie. Et malheureusement, comme pour chacun de nous baptisés, nous pouvons dérailler, nous pouvons pécher gravement, nous pouvons être scandale. Ça arrive, c'est arrivé, ça arrive encore aujourd'hui dans l'Église. C'est une source de souffrance pour beaucoup d'entre nous, je pense. Mais ça ne doit pas nous décourager pour autant, nous faire regarder tout ce qui ne va pas. Dans le groupe des 12, donc il y en a un qui a trahi le Seigneur. C'est le signe que le mal règne, vit dans l'Église, malheureusement. Continue à vivre dans l'Église. Mais il ne faut pas regarder uniquement cela, il nous faut voir aussi tous les autres, les 11 autres apôtres, et aujourd'hui il y a aussi des successeurs aux apôtres qui, eux, vont donner généreusement leur vie. Nous avons la joie d'avoir sur notre paroisse désormais le bienheureux Henri Planchat, qui est un bel exemple d'un prêtre qui va donner sa vie jusqu'au bout. Mais on pourrait évidemment trouver de multiples exemples. Alors, il nous faut donc prendre très au sérieux cet appel du Seigneur. D'une part, le Seigneur s'occupe de son Église, il la structure, il a voulu faire ainsi, à la fois autour des disciples, il y avait parmi eux 12 apôtres. Parmi les 12 apôtres, certains avaient une primauté, une importance plus particulière, et en particulier Saint Pierre, qui est toujours nommé en premier, et avec, vous connaissez les quelques dialogues que les évangiles nous rapportent sur Pierre, et donc sur Pierre et ses successeurs désormais, le Saint-Père. Et puis les apôtres avec leurs successeurs, eux, c'est les innombrables évêques dans toute l'Église qui vont se faire aider par des ministres ordonnés qui seront les prêtres, qui sont des collaborateurs de l'évêque. J'ai eu l'occasion déjà de le dire, mais un prêtre dans sa paroisse, il représente l'évêque qui ne peut pas être présent dans tous les lieux de célébration eucharistique. Donc il rend présent l'évêque, en rendant présent l'évêque, il représente Jésus. Il y a vraiment un lien très très fort entre le prêtre et l'évêque. Et puis ensuite, un peu plus tard, dans les Actes des Apôtres, justement, ces premiers apôtres vont décider de, de, de susciter des vocations diaconales, la vocation diaconale, qui seront le signe du Christ serviteur au sein de la communauté. Donc le Seigneur structure son Église. Très vite dans l'histoire de l'Église, il va y avoir aussi les vocations consacrées qui vont arriver dès que l'occasion de donner notre vie par le sang dans le martyr disparaîtra. Dans les premiers temps de l'Église, donc c'était très facile de mourir martyr. Malheureusement, aujourd'hui, c'est beaucoup moins facile. Je sais que ça attriste beaucoup d'entre nous qui souhaiteraient mourir martyr pour le Seigneur. Mais dès qu'il y en a eu moins, en fait, il y a eu des hommes et des femmes qui sont partis au désert dans un premier temps pour donner leur vie totalement, dans un renoncement total à tout, par amour de Dieu. Et puis ensuite, ça s'est constitué en communautés, les communautés monastiques qui ont eu un très grand succès dans nos régions, qui ont évangélisé nos régions au 5e, 6e siècle, à travers le monachisme bénédictin en particulier. Il y a beaucoup de traces chez nous. Et puis la cathédrale de Luçon, vous savez que c'est le premier évêque de Luçon, c'était un père abbé, de l'abbatiale de Luçon. Il y avait donc des moines, il y a encore des traces de cette époque monastique. Et puis ensuite, de multiples vocations de consacrés diverses et variées. Encore aujourd'hui, le Seigneur suscite des vocations diverses et variées dans la vocation religieuse et consacrée. Toujours est-il que l'Église suscite de nombreuses et multiples vocations pour structurer, pour conduire son Église. Il les suscite, mais l'invitation que le Seigneur fait à prier nous montre qu'il a besoin, mystérieusement, qu'il veut avoir besoin de nous. Et c'est là que la chose devient intéressante, sérieuse. Le Seigneur ne veut pas faire vivre son Église, faire rayonner son Évangile sans nous, en dehors de notre participation. Si aujourd'hui il y a une crise vocationnelle, alors là, pour le coup, c'est toutes les vocations, y compris la vocation baptismale, parce que le nombre de gens baptisés qui ne vont pas vivre leur baptême est multiple. Le nombre de gens mariés qui ne vont pas vivre leur sacrement du mariage est multiple. Toutes les vocations sont touchées. Donc une baisse des vocations religieuses est encore plus grave, est encore plus forte que la baisse des vocations sacerdotales. La prêtrise, mais vous savez aussi la baisse des vocations des prêtres est énorme, et en France, à ma surprise personnellement, parce que déjà quand j'étais ordonné prêtre, ça fait longtemps, 27 ans, 28 ans, il n'y avait déjà qu'une centaine d'ordinations par an de prêtres diocésains, et aujourd'hui on a encore bien baissé, et on continue à baisser. Quelque chose d'assez dramatique, mais donc le Seigneur nous dit, à travers cette invitation à la prière, il nous dit, assumez votre vocation, vivez votre vocation, et le Seigneur pourra susciter des vocations. Il nous dit aussi d'estimer toutes nos vocations. Une des choses qui a fait beaucoup de mal à l'Église, je pense, qui fait beaucoup de mal, c'est qu'on ne souhaite pas toujours... On n'a pas toujours un regard positif sur la vocation des autres. Et ça nuit énormément à l'action du Seigneur, à l'action de l'Esprit Saint du Seigneur qui appelle. Mais aussi, vivez vos vocations, que ceux qui sont mariés vivent bien leur sacrement de mariage, du mieux possible, tout au moins, parce qu'on ne peut pas. Et puis, ceux qui sont célibataires, baptisés, qu'ils vivent bien leur vocation baptismale, sachant que cette vocation baptismale est fondamentale pour tout le monde, c'est l'appel à la sainteté. Répondez à l'appel à la sainteté qui vous habite tous, et que nous-mêmes, prêtres et consacrés, avons aussi, évidemment. Et puis, vivons bien nos vocations, et puis prions. Prions pour susciter des vocations. Une des choses qui fait que les vocations ne viennent pas, c'est que on oublie de prier pour cela. Ou alors on prie occasionnellement, une fois de temps en temps. Dans les familles, il arrive souvent que l'on prie en famille. Ceux qui ne prient pas, je les invite à prier en famille. Ceux qui prient en famille, il faut aussi prier pour qu'il y ait des vocations dans l'Église. Le Seigneur le demande explicitement. Il faut prier personnellement, dans notre prière personnelle, pour qu'il y ait des vocations. Et puis, il y a ces vocations d'organisation de l'Église interne, et puis il y a cette vocation qui est la vocation, l'appel que Dieu lance à toute l'humanité à accueillir Jésus dans sa vie pour être sauvé. Et cette vocation baptismale, l'appel au baptême, aussi nous devons prier. C'est quelque chose qui est important, c'est de prier pour l'évangélisation, pour que l'annonce soit faite aujourd'hui à nos frères et sœurs. Et pour cela, il nous faut prier et prendre nos responsabilités, puisque nous sommes aussi appelés à évangéliser. Voilà, nous voyons que nous sommes tous dépendants les uns des autres, que l'Église se construit, c'est l'œuvre de Dieu avant tout, et donc nous ne sommes pas maîtres de son déploiement, bien sûr, mais nous sommes responsables tout de même de l'action de l'Esprit-Saint. Le Seigneur pourra agir, comme Jésus le dit, de façon surprenante. C'est vrai qu'il aurait pu ne pas le faire, il aurait pu dire « je m'en occupe, vous inquiétez pas ». Mais le Seigneur le dit « priez, priez pour que le Seigneur envoie des ouvriers à sa moisson ». Et il nous faut vivre cet appel, le prendre très au sérieux et ne pas croire que c'est une affaire pour les autres. Voilà, je vais terminer simplement par cet petit élément. Le danger aujourd'hui, notre danger, c'est que nous nous soucions que de nous-mêmes. Que nous nous soucions que de notre propre équilibre humain, spirituel, c'est très bien, pas de problème. Mais nous ne pouvons pas faire comme si nous n'étions pas le corps du Christ, l'Église. Comme si nous n'étions pas dépendants les uns des autres, comme si nous ne devions pas nous soutenir fraternellement les uns les autres dans la prière, dans nos relations fraternelles. Et c'est une conséquence de notre société. La société individualisme crée évidemment des chrétiens aussi plus individualistes que dans le passé. Eh bien, aujourd'hui, il nous faut prendre conscience de cela, être un peu à contre-courant, et non seulement se préoccuper évidemment de notre bonne santé spirituelle et humaine, mais porter avec cœur et avec toute notre énergie, porter nos frères et sœurs, ceux qui ne connaissent pas Jésus, pour qu'ils le rencontrent, et être missionnaire quand il le faut, et prier pour cela, et porter aussi les autres vocations, que le Seigneur suscite les autres vocations, intercéder auprès de lui pour que le Seigneur suscite des vocations, les soutenir dans ce qu'ils vivent, y compris dans les choses parfois difficiles, et ainsi le Seigneur répondra généreusement. Et nos régions ne vont pas aller inexorablement vers une déchristianisation dramatique, telle que on peut en avoir l'impression au premier regard. Il y a des signes, vraiment des signes d'espérance, on le voit, et sur notre paroisse, on a de la chance, parce que sur notre paroisse, on voit qu'il y a un vrai signe d'espérance. Il y a des demandes de baptême d'adultes qui se font de plus en plus nombreuses. Il y a des vocations, je vous disais, Damien a grandi dans cette paroisse, et puis on sait qu'il y a des jeunes hommes, des jeunes femmes qui se sont questionnés, et certains continuent à cheminer vers la vocation consacrée ou la vocation sacerdotale. Voilà, portons-nous les uns les autres, prions les uns pour les autres, prions pour que le Seigneur suscite des vocations. Je vais terminer simplement par cette citation de Thérèse de Lisieux, parce que sinon on me dirait « vous n'avez pas parlé de Thérèse aujourd'hui ». Il faut toujours prier comme si l'action était inutile et il faut agir comme si la prière était insuffisante. Amen.